Et merci d'avoir choisi Europe 1, il est midi.
Il y a eu une gestion au niveau d'une structure hospitalière pas complètement appropriée. Et cela a certainement contribué à la diffusion.
Une première explication officielle de la propagation du coronavirus en Italie. Giuseppe Conte pointe du doigt la mauvaise gestion d'un hôpital. Il ne précise pas lequel. Mais tous les regards, Pierre, se portent sur celui de Codogno, là où a été hospitalisé le patient 1, mercredi dernier, un homme de 38 ans.
Et l'Italie compte désormais 7 morts, 229 cas détectés. Nous sommes sur place dès le début de ce journal. Et puis nous irons du côté de Lyon, qui reçoit en plus des joueurs de la Juventus de Turin, 2000 supporters italiens d'ici demain soir. Quelles précautions ? Apparemment, aucune.
Nous verrons aussi ce que doivent faire tous ceux qui rentrent des zones à risque et puis nous démêlerons le vrai du faux de tout ce qu'on entend, notamment Pierre, sur les réseaux sociaux.
Quant à Anne Hidalgo, les bras lui en tombent presque quand elle entend Agnès Buzyn dire hier sur Europe 1 que les agents de la mairie de Paris n'étaient pas préparés à une épidémie, surtout quand il n'y avait pas eu de contact avec ses services. Ce matin, sur notre antenne, elle lui répond preuve à l'appui.
Je trouve ces propos tellement irresponsables de la part de l'ancienne ministre de la Santé que les bras m'en tombent presque.
Dans ce journal également, c'est au tour de Marine Le Pen de plonger dans la foule du Salon de l'Agriculture.
La pagaille dans un village breton, plus d'internet et des lignes téléphoniques qui vous renvoient chez le voisin.
Quand des personnes ont appelé, ils croyaient toujours appeler la voisine. Et j'ai appelé la fameuse voisine et effectivement, ça sonnait bien à la mairie. Il fallait appeler la voisine pour avoir la mairie.
À suivre également donc le boom du marché musical en France et la météo, Céline Dacosta avec un ciel encore perturbé.
Oui, des averses du sud-ouest au nord-est, parfois soutenues, de la neige sur les reliefs. Vent et pluie aussi pour le reste de la moitié nord avec encore quelques timides éclaircies.
Merci Céline, on vous retrouve à midi et demi. Météo complète sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Pour la toute première fois depuis la découverte du Covid-19 en Italie, Pierre, les autorités admettent une faille.
Faille qui viendrait d'un hôpital pour expliquer la propagation rapide du virus dans le nord du pays. Rappelons qu'à ce jour, nos voisins italiens comptent 7 décès et 229 cas identifiés.
C'est Giuseppe Conte, le Premier ministre, qui pointe du doigt des protocoles pas complètement appropriés au niveau d'une structure hospitalière.
Mathieu Bock, vous êtes en direct de Milan. Ça a l'air très vague comme ça, Mathieu.
Oui, il n'a pas donné davantage de détails, mais c'est une information capitale qu'a délivrée le Premier ministre ce matin lors d'une conférence de presse. C'est la première fois que Giuseppe Conte désigne clairement un responsable, en l'occurrence un hôpital, comme étant le propagateur du virus.
Il y a eu une gestion au niveau d'une structure hospitalière pas complètement appropriée selon les protocoles de prudence recommandés dans tel cas. Et cela a certainement contribué à la diffusion.
Mathieu, on comprend assez vite qu'il désigne, sans le mentionner, l'hôpital de Codogno.
Oui, car c'est dans cet hôpital qu'a été soigné celui qu'on surnomme le patient 1, c'est-à-dire le tout premier malade contaminé en Italie. Il s'appelle Mattia, il est toujours en soins intensifs à l'heure qu'il est. C'est un homme de 38 ans, cadre dans l'agroalimentaire, juste à côté de Codogno. Il a involontairement contaminé sa femme, enceinte de 8 mois, qui va bien, elle. Un ami avec qui il joue au foot, 3 habitués d'un bar qu'il fréquente, ainsi que des médecins à l'hôpital où il a été admis. Mais pour l'instant, ce qui inquiète les chercheurs, c'est qu'on ne sait pas comment il a lui-même contracté le virus. Il n'est pas allé en Chine. Son entourage n'a pas été contaminé. On cherche donc maintenant le patient zéro, celui qui a importé le virus en Italie et l'a donc transmis à Mattia, soit directement par la Chine, soit en passant par un autre pays. Les autorités ont annoncé travailler sur 2 pistes, mais n'ont pas donné plus de détails pour le moment.
Merci Mathieu Bock, l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 en Italie, à Milan en l'occurrence. À 13h, nous serons à Codogno, principal foyer de l'épidémie, avec Roman Okem.
Et alors que l'Italie se barricade, voici que 2000 supporters italiens sont attendus à Lyon dans les toutes prochaines heures pour le match de Ligue des Champions entre l'OL et la Juve. C'est demain soir.
Oui, pour l'instant, au risque d'être décalé, aucune mesure sanitaire n'a été prise, Jean-François Pérez.
Et non, tout va très bien, Madame la Marquise. C'est vrai que le décalage peut paraître étonnant, vu la tonalité alarmiste de l'actualité. Rien n'est remis en cause pour l'instant, ni la tenue du match demain soir avec l'étoile Cristiano Ronaldo en tête d'affiche, ni le déplacement des quelques 2000 supporters, vous l'avez dit, de la Juve, venus sans doute de toute l'Italie, y compris potentiellement de Vénétie et de Lombardie, car la Juve, c'est le club de tout un pays. Le ministère français de la Santé est le décideur dans ce dossier. Et il se veut rassurant, une réunion s'est tenue hier avec la préfecture du Rhône. Pas question a priori d'interdire quoi que ce soit. À l'Olympique lyonnais, on se dit à l'écoute des pouvoirs publics, sans tout à fait exclure la possibilité d'un rebondissement de dernière minute. Le week-end dernier, dans le nord de l'Italie, il faut savoir que des matchs ont été reportés. La rencontre de Ligue Europa de l'Inter Milan jeudi aura lieu à huis clos. D'autres événements sportifs sont menacés, mais pour l'instant, donc, pas de remise en cause pour ce Lyon-Juve. On en saura peut-être un petit peu plus cet après-midi lors des conférences de presse d'avant-match.
Merci Jean-François Pérez.
Alors, qu'en pensent les supporters lyonnais, Pierre? Est-ce qu'on s'inquiète?
Pas vraiment, si l'on entend Georges Huguet, le président de Génération OL. C'est l'un des clubs de supporters de l'Olympique lyonnais.
Je dirais que ça ne nous inquiète pas outre mesure. Disons qu'on a été un peu surpris par le fait que le match soit maintenu, ce n'est pas très surprenant. On est un peu surpris que les supporters italiens soient autorisés à se déplacer, puisqu'on peut supposer que certains viennent de Turin, d'autres de Milan, d'autres parties de l'Italie. Bon, il ne faut pas faire de phobie. Si les autorités ont autorisé ce déplacement, je pense que les autorités sanitaires savent ce qu'elles font, quoi. Je pense qu'il faut être attentif, qu'il faudra faire attention à ce qui peut se passer, mais bon, on sera quand même présent derrière notre équipe demain. Il y a un déplacement à faire dans 3 semaines à Turin que nous espérons pouvoir faire pour supporter notre équipe. Le plus important étant bien évidemment qu'on trouve la solution pour cette épidémie qui se développe.
Voilà Georges Huguet, président de Génération OL avec Yasmina Katou. On l'a appris il y a tout juste une demi-heure, des centaines de touristes, je dis bien des centaines, sont confinés au moment où l'on parle dans un hôtel de Tenerife. Rémi Bossaron, vous avez des précisions?
Oui, ces touristes sont donc dans un hôtel du sud de l'île au pied du Teide, le célèbre volcan de l'île, hôtel en bord de mer avec piscine et palmiers dans lequel sont donc confinés près d'un millier de touristes. Pourquoi? Parce que se trouve parmi eux un Italien suspecté d'être porteur du virus, un Italien de 69 ans, originaire de Lombardie et médecin, selon les médias locaux, un homme qui a été testé positif hier et qui doit subir de nouvelles analyses. En attendant donc, les touristes sont confinés dans leur chambre. C'est par un communiqué que la direction leur a annoncé cette décision, communiqué glissé sous la porte de leur chambre. Cet hôtel est désormais placé en isolement sous contrôle sanitaire et d'après le journal El País, tous les touristes et le personnel sont en ce moment soumis à des examens.
Merci Rémi Bossaron.
Il est 17h, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin. Et on va évidemment revenir en France, Pierre, parce que nous avons aussi parmi nous ceux qui rentrent de ces fameuses zones à risque.
Les élèves qui reviennent de vacances, les adultes qui ont fait certains déplacements. Les zones à risque, c'est la Lombardie et la Vénétie en Italie, la Chine continentale donc avec Hong Kong, Singapour et la Corée du Sud qui, on l'apprend à l'instant, compte près de 1000 cas pour la Corée du Sud. Situation très grave, dit à l'instant le président Moon Jae-in. Virginie Salmen, pour cela, quelle feuille de route?
Alors, la consigne est claire pour les élèves de la maternelle jusqu'au lycée. Ils doivent rester chez eux en quarantaine pendant les 14 jours qui suivent leur retour de voyage. C'est la recommandation du ministère de la Santé. La raison est simple. Il est trop compliqué de faire porter un masque à un enfant pendant toute une journée. Même consigne de quarantaine pour les bébés qui ne doivent donc pas aller en crèche. Les voyages scolaires à destination du nord de l'Italie doivent évidemment être reportés et il est demandé de reconsidérer la pertinence de tous les voyages de classe vers les 5 zone d'exposition que vous venez juste d'énoncer. Pour les adultes, priorité au télétravail quand c'est possible, mais il n'y a pas de consigne de quarantaine pour eux. Vous pouvez donc aller au bureau ou à l'université à condition de porter un masque simple, donc un masque chirurgical. Les autorités sanitaires recommandent quand même d'éviter les réunions, de ne pas prendre l'ascenseur avec des collègues, ni de déjeuner à la cantine. Il est également demandé de ne pas aller au restaurant ni au cinéma, ni d'utiliser les transports en commun. Et bien sûr, prendre sa température 2 fois par jour et dès qu'elle monte ou si de la toux ou des difficultés à respirer apparaissent, appelez immédiatement le 15.
C'est très clair. Merci Virginie Salmen. Et puis, il nous semblait indispensable de faire ce qu'on appelle en anglais un fast-checking, démêler le vrai du faux, de tout ce qu'on entend à propos du coronavirus et surtout le flou qui rôde autour de questions essentielles.
Et pour ça, Victor Delande nous a rejoint. Bonjour Victor.
Bonjour.
On dit que les enfants de moins de 14 ans ne sont pas touchés. Vrai ou faux?
Oui, c'est un mystère que les scientifiques n'ont pas encore réussi à élucider. Les enfants sont plutôt épargnés par le coronavirus. Ça représente seulement 1% des cas de contamination rapportés. Donc peu de cas, mais surtout pas encore de morts, puisque le plus jeune patient qui a succombé au virus avait 21 ans. En revanche, selon plusieurs infectiologues que j'ai pu contacter, il est possible que les enfants soient asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne présentent aucun symptôme, type toux ou grosse fièvre. Il est donc possible que les cas chez les enfants soient plus nombreux, mais une certitude, Les rares enfants touchés résistent très bien.
Bon, alors on sait qu'on est contaminé à une certaine distance, mais si par exemple on touche un meuble après une personne contaminée, est-ce qu'on peut être contaminé à son tour ?
Alors, on ne sait pas encore combien de temps le virus résiste à l'air libre. Est-ce que c'est quelques heures ou quelques minutes ? Là encore, les infectiologues qui étudient les cas recensés estiment qu'on est plutôt proche de la contagion de la grippe. Le virus résisterait quelques minutes. Donc oui, si une personne contaminée touche par exemple la barre du métro, vous la touchez aussi. Vous pouvez être contaminé. Le plus simple est de se laver les mains le plus souvent possible, quitte à utiliser une solution hydroalcoolique quand vous sortez du métro.
Victor, autre question. Si je ne suis pas contaminé, mais que j'achète un masque, est-ce que je peux avoir l'assurance de ne pas contracter justement le coronavirus ?
Alors, les masques doivent être portés par les personnes contaminées pour ne pas propager le virus. Et il est actuellement recommandé que le personnel hospitalier en porte, car ils peuvent être en contact avec des malades. En revanche, comme le virus ne circule pas actuellement en France, il n'est pas utile d'en porter un. Mais là aussi, plusieurs infectiologues me l'ont confirmé, si la situation devient similaire à celle de l'Italie où le virus n'est pas contenu, il est possible que les autorités imposent des mesures préventives comme porter un masque.
Dernière question, à Paris, on l'a vu, il y a une baisse drastique de fréquentation dans les restaurants asiatiques. C'est une vraie psychose qui s'est formée sur les aliments et notamment sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut en penser ?
Alors là, c'est très clair, Pierre, rien, absolument rien n'indique qu'il existe une transmission par l'alimentation. C'est une information qui circule effectivement beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais pour l'instant, ça relève uniquement de la fake news.
Merci de ces précisions, Victor Delande.
Il est midi 11. Europe 1. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Le coronavirus encore, mais version politique cette fois, puisqu'il a mené à un vrai bras de fer entre Anne Hidalgo et Agnès Buzyn. A tout de suite. Europe 1. Il est midi 13, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin. Et nous reparlons, Pierre, du coronavirus, mais il s'invite dans la bataille politique des municipales à Paris et il conduit à un véritable bras de fer entre l'équipe Buzyn et l'équipe Hidalgo.
Hier sur Europe 1, Agnès Buzyn a affirmé que les agents de la mairie de Paris n'étaient pas préparés à l'épidémie de Covid-19 et surtout qu'elle n'avait pas eu de contact avec les services municipaux. Ce matin, sur Europe 1, Aurélie Herbemont, Anne Hidalgo a riposté, preuve à l'appui.
Et oui, la maire de Paris qui brandit deux lettres dans ce studio ce matin. Un courrier envoyé par Anne Hidalgo à la ministre de la Santé le 31 janvier dernier où elle demande une clarification des recommandations. Et surtout, la réponse signée de la main d'Agnès Buzyn, datée du 12 février, où la ministre de l'époque remercie vivement la maire de Paris de sa mobilisation. Bref, c'est peu dire qu'Anne Hidalgo n'a pas apprécié les accusations de sa désormais rivale au municipal.
Je trouve ces propos tellement irresponsables de la part de l'ancienne ministre de la Santé que les bras m'en tombent presque. Voilà, j'ai deux courriers. Voilà, le courrier que je lui ai écrit et le courrier de sa réponse. Donc, les choses sont absolument claires.
Les socialistes à l'unisson d'Anne Hidalgo dénoncent l'indécence, le comportement politicien d'Agnès Buzyn, sans oublier Hugues Granson, vice-président En Marche de l'Assemblée et soutien du candidat dissident à Paris, Cédric Villani, qui y va de son commentaire acide sur Twitter. Face au coronavirus, les Français se passeraient bien des futiles polémiques électorales. En résumé, on a une attaque pas forcément bien calibrée venue d'Agnès Buzyn et la riposte du camp Hidalgo à grand renfort de l'impitoyable placard à archives. Bref, l'ancienne ministre venue de la société civile est officiellement dans le grand bain d'une campagne électorale.
Merci Aurélie Herbemont.
La politique encore et toujours avec la suite des déambulations au salon de l'agriculture.
Avec aujourd'hui Marine Le Pen, la présidente du RN. Elle est arrivée à 10h, ça fait donc 2h qu'elle se promène. Jean-Gabriel Bourgeois, vous en êtes où ?
Eh bien, toujours au milieu des vaches, au stand de la viande bovine, précisément dans le hall 1. Après un passage obligé par l'égérie du salon, la vache idéale, Marine Le Pen se fraye difficilement un chemin dans la cohue de journalistes et de visiteurs. La patronne du Rassemblement National enchaîne les photos et discute avec les producteurs. Blonde d'Aquitaine, Montbéliarde, au bras qu'elle prend le temps, comme ici avec un haut savoyard désabusé qui élève des vaches Reims.
Je crois plus en la politique, honnêtement.
Mais on a... Je ne vois pas comment vous pouvez continuer à y croire. Vu que de toute façon, ça fait 20 ans qu'on vous explique qu'elle peut rien.
Alors vous le savez, Marine Le Pen s'est déjà déclarée candidate à la présidentielle de 2022 et la politique nationale reprend vite le dessus. Marine Le Pen s'en prend à la gestion de la réforme des retraites par le gouvernement.
Clairement, il y a une volonté de la part du gouvernement de passer en force depuis le début. On l'a vu avec les 29 ordonnances. Je vais vous dire que je juge très durement le mensonge qui a été fait aux agriculteurs sur le niveau de leur retraite. Parce que venir leur dire... vous aurez une retraite minimum de 85% du SMIC et puis venir après au détour d'un couloir dire ben non pour finir, en réalité on a dit ça mais on ne pourra pas le faire, je trouve que c'est profondément scandaleux.
Voilà, c'est le début d'un marathon ici. Marine Le Pen a prévu de passer toute la journée au Salon de l'Agriculture.
Merci Jean-Gabriel Bourgeois et nous avec La France Bouge, nous serons au Salon de l'Agriculture vendredi.
Évidemment, et on vous y attend.
Et on vous y attend, bien sûr. En bref, la Cour des comptes publie son rapport annuel. D'une manière générale, les sages de la rue Cambon reprochent au gouvernement de ne pas assez se préoccuper du redressement des finances publiques. 18 enfants parmi les 52 blessés de la voiture Bélier hier en Allemagne. Le véhicule a foncé dans un carnaval dans la ville de Volkmarsen.
Vous écoutez Europe 1, il est midi 17. La suite de votre journal, c'est avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin. Et on prend maintenant la direction de la Bretagne. Pierre, dans le sud des Côtes d'Armor, quelque part entre Ploirmel et Louédac, la petite commune de Saint-Étienne-du-Guet de Lille connaît quelques petits problèmes de téléphone.
Oui, c'est un peu la boucherie sans eau. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans Tintin. Ça fait plusieurs semaines que, suite à une intervention pour installer la fibre, le téléphone ne sonne plus. Et quand ça sonne, ça sonne chez le voisin. Reportage Charles Guyard.
J'aurais dit carrément que j'espérais ne pas avoir à leur envoyer un avis d'obsèque.
La hantise du maire Pierre Pichard, apprendre le décès de l'un de ses 380 administrés, plutôt anciens, donc dépendants du téléphone fixe. C'est le cas de René Bougot. Il a 80 ans et chez lui, plus aucun appel n'entre ou ne sort depuis le 26 décembre.
Ah. Ouais, mais il n'y a rien au bout.
Ah oui, là vous avez décroché et finalement, moi, ça continue de sonner.
Tout le temps. Alors, si je tombe, j'appelle qui? Je ne peux pas appeler. Il n'y a rien. Je vais s'allonger là. Il ne suffit qu'une fois. Allez, il y a 80 ans. Il n'y a pas de miracle.
Pas de miracle non plus quand on compose le 18, les pompiers. Là, ça ne sonne pas du tout. Ailleurs, cette panne aussi est problématique. Par exemple, au garage du village, le patron, Patrick Lehaut.
On a des clients qui nous disent qu'ils ne peuvent pas nous appeler. Ils se débrouillent ou ils vont ailleurs.
Et la situation a parfois viré au cocasse, notamment à la mairie où Pierre Pichard, le maire, raconte comment il a découvert le problème.
Quand des personnes ont appelé, ils croyaient toujours appeler la voisine. Donc moi, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai appelé la fameuse voisine. Et effectivement, ça sonnait bien à la mairie. Il fallait appeler la voisine pour avoir la mairie.
Et pour l'instant, aucune date de retour à la normale n'a été annoncée à l'élu. Saint-Étienne du Guet de Lille, Charles Guyard, Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, il est midi 19. La suite. On reste ensemble sur Europe 1 et dans un instant, on vient de l'apprendre, la mort de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak. A tout de suite. Midi 21, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin. Il était resté pendant des années à la tête de l'État égyptien, Pierre.
Oui, Hosni Moubarak, 91 ans, est mort, Gwendoline Debono.
Oui, il est mort à 91 ans et avec la disparition d'Hosni Moubarak, ce sont les souvenirs des printemps arabes qui remontent puisque Hosni Moubarak a quitté le pouvoir en 2011 après trois décennies passées à la tête de l'Égypte. En janvier 2011, on se souvient des manifestations monstres éclatant en Égypte. L'épicentre se trouve place Tahrir au Caire. La répression est extrêmement violente, près de 800 morts. Lâché par les Américains, le Raïs Hosni Moubarak démissionne après un peu plus de deux semaines de protestations. Ben Ali en Tunisie, Kadhafi en Libye. Moubarak est un des chefs d'État balayés par l'espoir démocratique dans le monde arabe. Avant cela, Moubarak bénéficie du soutien inconditionnel de l'armée dans son pays. Et c'est la raison pour laquelle il se veut l'un des piliers de la stabilité au Moyen-Orient. Hosni Moubarak a toujours, par exemple, défendu les accords de paix signés avec Israël en 1979. Après les printemps arabes, Moubarak est poursuivi par la justice. Il passe la majeure partie de sa détention dans un hôpital militaire puisqu'il est condamné à la perpétuité. Il est ensuite acquitté définitivement en 2017 avant de s'éteindre, comme on vient de l'apprendre, trois ans plus tard à 91 ans.
Merci Gwendoline Debono. La politique encore avec Édouard Philippe qui à l'instant demande aux députés LREM de tenir encore face à l'obstruction de la gauche sur la réforme des retraites, tout en assurant que si besoin, il prendra ses responsabilités en recourant au fameux article 49.3 de la Constitution dont on parle beaucoup en ce moment dans l'actualité.
On termine ce journal, Pierre, en montant le son, puisque les Français écoutent de la musique et figurez-vous qu'ils aiment ça.
Ouais, ça fait quelques années que l'industrie du disque est en berne. Et c'est vrai, le CD, c'est un peu fini. Il y avait un vide juridique, du coup, autour du streaming. Et tout ce qu'on écoutait réellement dans la vraie vie n'était pas comptabilisé.
Eh bien, tout cela est rétabli. On a maintenant les moyens de comptabiliser Deezer, Spotify et tous les autres. Et le SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique, confirme que le marché français de la musique en 2019, se porte beaucoup mieux, Angèle Châtelier.
Ils s'appellent Nekfeu, Clara Luciani, Angèle, Maître Gims, Vita et Slimane et ils font partie des meilleures ventes d'albums l'année dernière.
Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien.
Ils ont vendu des millions de disques, mais c'est surtout sur les plateformes de streaming qu'on les écoute. YouTube en tête pour les plus jeunes. Jusque-là, pas vraiment de surprise, mais la nouveauté cette année, de plus en plus de personnes s'abonnent à Spotify, Deezer et tous les autres pour environ 10€ par mois, la musique en illimité. Et cet argent profite aux artistes qui ont souffert du téléchargement illégal. Le vinyle aussi confirme son grand retour. Une hausse de 12% des ventes, c'est énorme. Et ce ne sont pas que des groupes qui ont quelques années derrière eux. D'ailleurs, c'est l'autre nouveauté cette année, l'émergence des nouveaux talents. Un quart des disques les plus vendus sont des premiers albums, comme Angèle, L'Homme Pâle, Aya Nakamura. Mais alors le Snap tempère quand même cette réussite. Nous sommes bien loin de l'âge d'or de l'industrie, mais les usages évoluent et chaque acteur de l'industrie tente d'y trouver son compte.
C'est ce qu'on appelle un tube efficace.
Oui.
Vous êtes plutôt streaming. Vous êtes plutôt. Je suis sûr, Angèle, que vous avez des,
Angèle,
des 33
tout.
Tours.
33 tours. Bah, tous les jours, 33 tours.
Oh là là, ouais. Céline, 33 tours.
Ah non, moi, Spotify, Deezer.
Voilà, moi, moderne. J'ai aussi les vinyles.
Moi, j'ai les CD. Ça ne nous rajeunit pas. Je suis un dinosaure.
Ah, dans la voiture, les CD aussi. Ouais.
Bon, voilà. En tout cas, sachez que ce sera notre dossier du jour. Tout à l'heure, à partir de 13h, on va parler musique et nouveautés parce qu'il y en a. Merci Pierre,
merci,
on se retrouve
à
tout à l'heure.
Il est midi 25.
Europe 1.
Koya et les Blobs, ça ne vous dit peut-être rien. Eh bien, restez avec nous pour découvrir quel projet se cache derrière nos deux France Bouge Académie. A tout de suite sur Europe 1.